insister sur l'importance de tenir encore ces procès, même 30 ans après.
Je me suis dit finalement, non, je vais vivre, je vais survivre.
Et maintenant, c'est quoi ? C'est vivre, ce n'est pas mourir, c'est vivre.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au podcast Kibuka 30, une série réalisée par Kibuka Mémoire et Justice Belgique dans le cadre de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Ce programme est financé par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est présenté par Ernest Sagaga, président de l'association Kibuka Mémoire et Justice Belgique. Il y a 30 ans, du 7 avril au 4 juillet 1994, l'extermination des Tutsis au Rwanda s'est déroulée au vu et au su du monde entier, faisant plus d'un million de morts. Cet événement tragique est considéré comme le dernier génocide du XXe siècle. Ces 100 jours ont laissé un traumatisme majeur sur les survivants, mais également sur les Rwandais vivant en exil, et à eux-mêmes ou leurs parents échappés au pogrom anti-Tutsi dans les décennies post-indépendance. Cette année, des événements de commémoration de la mémoire de tous ceux et toutes celles qui ont péri dans ce génocide des Tutsis ont eu lieu au Rwanda et à travers le monde. L'association Kibuka Mémoire et Justice Belgique, la première organisation créée pour préserver la mémoire des victimes de ce génocide et promouvoir la justice, s'est pleinement associée à cette activité. Cette série de 5 épisodes de podcast s'inscrit donc dans ce cadre. Dans ce premier épisode, je reçois M. Eugène Mutabazi, membre fondateur et premier président de notre association Kibuka, qui marque également cette année 30 ans depuis sa création en août 1994. Nous revenons d'abord sur la réaction de la communauté rwandaise en Belgique quand ils ont appris que les massacres des Tutsis avaient commencé au Rwanda au matin du 7 avril 1994.
On est le 7 avril au matin. On voyait déjà sur RTBF, RTL, les massacres, que les massacres avaient commencé. Les radios, BBC, RFI, tout ça parlait déjà des massacres qui venaient de commencer. Et alors, voilà, donc vous imaginez les inquiétudes, donc tout le monde est inquiet. En tout cas, moi j'étais vraiment très très inquiet. Inquiet pourquoi ? Parce que mes parents m'avaient raconté justement leur périple pendant les années 59-60. Ils avaient perdu tous les leurs. Mon père était jeté dans la Nyabarongo. Il a séjourné dans la Nyabarongo pendant une semaine. Donc il en est sorti, je vous dirais, avec beaucoup de séquelles. Et ma mère, la même chose. Et donc voilà, il m'a raconté en tout cas ce qui s'est passé à cette époque-là. Et donc moi, j'ai fait une association. Je me suis dit, c'est fini là, c'est fini, c'est fini. Je crois que j'ai eu raison parce que le lendemain, donc le 7 avril, on nous dit que les massacres ont commencé déjà dans la nuit du 6 au 7. Et puis toute la journée du 7, c'était pareil, des couvre-feu, tout ça, les barrières sont érigées. Et puis le 8, évidemment, les massacres se généralisent dans Kigali. Alors le soir, je dirais qu'ici, Kibuka, en tout cas l'idée, le projet d'Kibuka est né dans la nuit du 8 au 9 avril 1994. Donc pendant justement que j'étais dans ma chambre en train de me demander, poser des questions existentielles. Je me disais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, quel est mon devenir, comment je vais survivre. Et moi, j'étais en Belgique, évidemment, je n'avais pas des machettes sur moi, mais je me disais, si le génocide a eu lieu, si les Tutsis sont exterminés, ce qui était sûr, ce dont j'étais sûr en tout cas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais, moi, personnellement? Alors, 3 choses me sont passées par la tête. Je me suis dit, bon, voilà, il faut que je rejoigne les Ingwatani pour essayer de combattre le mal. Bon, évidemment, logiquement, j'aurais pu le faire, mais c'est compliqué. Donc, le chemin, tout ça, prendre l'avion au Uganda, enfin, Sabena jusqu'en Ouganda, de l'Ouganda jusqu'à... Bon, c'était très compliqué. Voilà, je reviens au Rwanda. Je vais au Rwanda. Je ne voyais pas rester seul sur cette terre. Évidemment, au Rwanda, ce n'est pas possible parce qu'évidemment, l'aéroport est fermé, il n'y a plus d'avions qui vont au Rwanda, et puis c'est la folie. Les Tutsis sont. Les Tutsis ont commencé, donc voilà, je ne vais pas me livrer comme ça aux tueurs, donc je ne le fais pas. Alors, désespéré, je me dis, à quoi ça sert de vivre, de rester en vie? À quoi ça sert? Mais finalement, c'est pour ça que je parlais d'un projet de vie, de survie, pardon. Je me suis dit finalement, non, je vais vivre. Je vais survivre. Je vais non seulement survivre, mais je vais essayer aussi une fois que le génocide sera accompli, il y aura probablement des survivants. S'il y a des survivants, je me donne comme mission de créer une structure qui pourra, en tout cas, les rassembler, nous réunir, je dirais, constituer des nouvelles structures qui seraient comme des nouvelles familles des survivants. Voilà, c'est comme ça que le projet est né.
On est juste pendant le génocide.
Hein. On est le 8. On est le 8, dans la nuit du 8 au 9 à 3h du matin.
Au 9, 3h du matin. C'est quoi la séquence qui a mené justement à l'établissement de la structure dont vous parlez, Ivoca?
Donc, l'idée est là, il faut que j'en parle à des gens. Mais avant d'en parler à des gens autour de moi, l'idée a mûri. Je dirais pendant tout le mois d'avril, l'idée a mûri. Dans moi, dans ma tête, j'en ai parlé à personne. Et puis au mois de mai, la première personne ou les premières personnes auxquelles j'ai parlé le projet, c'était André Martin Kalongozi et Jean Bizimana, qui sont des Rwandais qui étaient en Belgique à ce moment-là. Mm-hmm. Et donc Bizimana était originaire de Butare, d'Ishambu, et Kalongozi originaire de Kyangugu. De Gikongoro. Voilà, j'en ai parlé. Ils ont bien accueilli le projet. Et alors, bon, nous avons échangé quelques mots. Et puis, voilà, au fur et à l'aiguille, j'ai rencontré d'autres personnes. Donc, alors, le moment le plus important, je dirais, c'est le jour où j'ai rencontré Maître Michel Grindorge. Maître Michel Grindorge avait organisé avec les Rwandais, ici en Belgique, toute une série de conférences, justement, sur ce qui venait de se passer au Rwanda. Donc, il y avait des projets, des porte-plaintes, évidemment, contre les génocidaires qui commençaient déjà à affluer en Belgique, donc à cette époque-là. Et alors, j'ai rencontré un ami, c'était un ami de Michel Grindorge, René Reindorf, c'est un juif, rescapé d'Auschwitz. Donc, lui m'a mis en contact avec Michel Grindorge. Et là, c'était très intéressant, parce que Michel Grindorge, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Et alors... voilà, je lui ai parlé de ce projet, il m'a bien accueilli, bien reçu à son cabinet ici à Uitterbeek. Comme il était au courant, parce que bon, avec toutes ces séries de conférences qu'il avait organisées avec les membres de la communauté rwandaise ici, les anciens, les sages, comme on les appelait, il m'a dit, écoute, je suis prêt à t'aider, je vais t'aider 100%. Et alors, il dit, mets par écrit ton projet. Dans ma tête, il s'agit de quoi? Il s'agissait de commémorer d'abord, de commémorer tout cet outil qui venait commémorer la mémoire et la vie et la mémoire de tout cet outil qui était en train de se faire massacrer. Commémorer pour moi, c'était quoi? Commémorer, il ne s'agissait pas de se souvenir seulement, de se rappeler qui était quoi. Non, il s'agissait plutôt de les faire vivre, rayonner, malgré que physiquement, ils ne sont pas là, ils ne sont plus là, ils ne seront plus là. Essayer de les faire rayonner, je dirais, parler d'eux, non pas de leur cadavre, mais parler d'eux, de leur vivant. Qui étaient-ils? Que faisaient-ils? Que pensaient-ils? Quelle était leur philosophie, leur manière de vivre, leur façon de vivre? Où habitaient-ils? Pour moi, c'était ça, la mémoire dont je parlais. Donc, il s'agissait d'une mémoire... je dirais, global, mais individuel. Comme personne était coupée à morceaux, donc on prenait, bon, la plupart des fois, on prenait personne par personne, ou alors, en tout cas, l'intention, même s'il lançait des grenades dans un tas, dans une foule, celui qui lance voulait tuer individuellement les personnes. Individuellement. Et en plus de ça, ceux qui tuaient connaissaient leurs victimes. Donc, ils savaient que tel est dans le groupe. Donc, cette mémoire, il s'agit d'une mémoire, au départ, vraiment destinée à la personne tuée, chacun individuellement.
Alors, Michel Grindorge, de vous parler, a publié un livre de l'antisémitisme et du racisme, dans lequel il parle justement du génocide et des tortures au Rwanda. Et il y a même, à la fin de ce livre, les statuts d'Ibuka. Maintenant, la structure a été établie sous le nom d'Ibuka. Comment avez-vous choisi son nom, Ibuka?
D'accord. Quand j'ai présenté à Michel Grindorge donc le projet, donc c'était perpétuer la mémoire, commémorer les victimes du génocide, comme je l'ai dit individuellement, mais aussi collectivement, parce que je voulais qu'on organise justement des journées de commémoration. Là, ce sont des commémorations collectives, des journées de commémoration. Et alors, cette journée de commémoration, dans les projets que j'ai donnés à Michel, c'était en trois parties. Donc, il y avait une journée qui rassemblerait tous les survivants, mais aussi les amis des survivants. on se rassemblerait quelque part pendant un temps X, un temps T, pour parler du génocide en lui-même. Et puis, une marche de la mémoire ou une marche du souvenir. Une marche du souvenir pour essayer de se mettre, je dirais, dans la peau, même si cela est impossible, bien évidemment. Sûr. Mais c'est essayer de s'imprégner dans la mémoire, dans nos têtes, le vécu de cette personne-là. Ça marche vers la mort, c'était ça. Donc en fait, on aurait dû l'appeler la marche de la mort. Et puis après, le troisième volet, c'était la soirée probablement dite, une soirée où les rescapés, les survivants échangeraient leurs expériences avec des amis ou alors d'autres membres de la communauté qui seraient là, qui n'étaient pas nécessairement là-bas au Rwanda. C'était ça. Voilà, on a fait... Michel Grenoble, vraiment, je vais vous parler du livre, nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Il nous a réunis plusieurs fois. Et là, nous avons, avec l'aide de son cabinet, de sa secrétaire, parce qu'il a, il a réuni les avocats experts, hein, les juristes, pardon, experts en association ASBL, mm-hmm. qui ont aidé, qui ont rédigé, en tout cas le texte, qui nous les proposaient pour correction ou pour adaptation ou pour lecture. Mais c'est eux... C'est le cabinet de Michel Grindorge, c'est Michel Grindorge et son cabinet qui ont rédigé vraiment les statuts, les premiers statuts d'Ibuka. Mm-hmm. Parce que ni moi, ni Karl Ngozi, ni Jean Bizimana, ni personne, on n'avait aucune expérience en tout cas dans le domaine. Je crois que c'est vers le mois de septembre, décembre 1994 que Michel Grindorge a écrit ce livre.
Je crois un peu avant parce que la structure a été établie en août.
Non, non, la structure, mais le livre.
Le livre.
La structure a été établie en août. Et alors, tu me demandais...
le nom, parce que lui, il n'était pas rwandophone.
Hein, il n'était pas rwandophone. Non, c'était pas... Non, la réunion, c'était lui et les membres de la communauté à l'époque rwandaise, ici. Donc, il n'était pas seul. On réfléchissait sur les statuts, sur les textes, mais la rédaction, c'est lui.
D'accord.
Enfin, c'est lui, c'est son cabinet.
Son cabinet.
Et alors, donc, il fallait effectivement les publier. Alors, il fallait trouver un nom. Alors, un jour, on était réunis à son cabinet. Mm-hmm. Il y avait Jean Bizimana, il y avait moi, il y avait Vianne Dessart, il y avait Jean-Philippe Schreiber, Alain Verhagen et d'autres personnes. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On était une trentaine. Mm-hmm. Alors, moi, je me référais à la Fondation Auschwitz. Auschwitz, c'est un nom bizarre. Appeler une association Fondation Auschwitz, alors que, bon, d'après les informations que j'avais à l'époque, pour moi, c'était associé au four crématoire. Dans ma tête, je m'étais dit, je vais l'appeler la fondation ou l'association, ou je ne sais pas, quelque chose qui parlerait de l'apocalypse. Je me référais au discours de, ou au propos de Magosora, au retour d'Arusha. Ouais. Les rescapés de la Shoah ont appelé leur association la fondation Auschwitz. Bon, Auschwitz, ce n'est pas quelque chose de positif. Alors, je me suis dit, bon, tiens, fondation ou l'association de l'apocalypse, c'était... Voilà, c'était ça l'idée au départ. Mm-hmm. Évidemment, Jean-Philippe Schreiber m'a dit, et Michel Grindorge m'a dit, non, tu ne peux pas appeler cette association l'Apocalypse. Et alors, Jean-Louis Malaki était avec moi, il m'a dit, enfin, on s'est dit, mm-hmm. voilà, chacun murmurait avec son voisin, essayait de trouver un nom. Alors, nous avons murmuré, moi et Jean-Louis Malaki qui était là. Je crois que c'est lui qui m'a dit, écoute, on va l'appeler Ibuka. Ah, je dis, tiens, c'est une bonne idée. Donc, je dirais le terme, Ibuka. En tout cas, c'est lui qui l'a suggéré. Jean Bizimana, d'accord. C'est lui qui l'a suggéré. Mm-hmm. Nous en avons parlé et puis il a annoncé au groupe. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'est né le
C'est comme ça que vous avez adopté le
Et nous l'avons adopté tout de suite parce que c'est tout à fait un concept, tout à fait adapté à notre démarche.
D'accord. Donc, vous adoptez le nom. Ibuka, vous nous avez parlé de la marche du souvenir que vous avez aussi adoptée, ainsi que la soirée de mémoire. Et là, on est en Belgique, hein. On est toujours en août.
On est toujours en août, oui.
En 94.
En 94.
À l'époque, Ibuka n'existait pas au Rwanda. Comment ça s'est passé pour que Ibuka quitte la Belgique, vers le Rwanda, la France et partout ailleurs mm-hmm. semaine.
Alors, effectivement, Ibuka est né
le 16 août.
Enfin, officiellement. Donc, toutes les réunions, toutes les démarches, la constitution, la rédaction des textes, c'est avant. Et alors, nous avions un problème. Évidemment, Ibuka est né en Belgique. Le génocide,
c'est pas au Rwanda.
C'est pas au Rwanda. Qu'est-ce qu'on va dire ? Il s'agit de commémorer. Mais qu'est-ce qu'on commémore ? Nous avons des images qui passent à la télévision, mais on n'en a pas. Nous ne sommes pas propriétaires d'aucune image. Il n'y a personne qui va là-bas pour prendre des photos, donc on n'a rien. Et puis, dans notre texte, l'idée, c'était de créer une organisation internationale dont le siège serait établi au Rwanda. On était conscients, effectivement, que puisque le génocide se passe au Rwanda, donc il faudra que le centre de nos activités, le centre de toutes les activités du Bouka, soit au Rwanda, établi au Rwanda. Mais en attendant, puisque le génocide est en cours et que nous n'avons pas accès
au territoire,
donc on va commencer nos activités ici en Belgique. Mais on a justement ce problème-là, on n'a pas d'image, on n'a rien, on n'a pas de témoignage, on n'a rien. Mais il fallait aller sur place pour chercher tout ça. C'est ainsi qu'au mois de décembre et janvier, nous décidâmes effectivement d'aller au Rwanda avec Jean-Philippe Schreiber et son épouse Nathalie Bloch. On a organisé le voyage ensemble. Ils avaient une mission, ils devaient aller quelque part ailleurs, mais j'ai profité pour aller avec eux. Mais entre-temps, nous avons, avec Jean-Philippe Schreiber, nous avons fait un travail de recherche. Nous avons fait ensemble vraiment un travail nous avons essayé de reconstituer quelque part, de retrouver les traces. C'était ça le but. Il y en avait tellement. Donc on est au mois de janvier, décembre, janvier, les cadavres, ils étaient encore là. Donc nous sommes allés sur place. Nous avons été à différents endroits. Mais avant d'aller au Rwanda, moi je suis passé par le lac Victoria. Je me suis dit, non, il faut, comme il y a beaucoup de corps qui ont charrié dans la Nyabarongo et dans la Kagera et qui se déversaient dans le lac Victoria. Donc je suis passé par là. J'ai vu les Nations Unies avaient organisé, ils avaient enterré. Il y avait des fosses communes qui étaient là, à 6 km du lac. Mais aussi, il y avait encore des cadavres, des corps qui continuaient à charrier dans les eaux du lac Victoria. Donc j'ai été au lac, j'ai regardé, j'ai parlé avec les pêcheurs qui se sont occupés de ces cadavres, de ces corps. Et puis voilà, avec Jean-Philippe, nous sommes allés à Nyamirambo, nous sommes allés dans le Bugesera, nous sommes allés à Kibungo, nous sommes allés un peu partout en fait, à Nyangye. Et à Nyarubuye, nous sommes allés à... Moi, je suis allé à Morambi, je suis allé à Gisenyi également, à Gisenyi, la zone rouge, là,
la commune rouge,
stade, à Nyundo. Voilà, on a pris des photos, j'ai pris des photos et quelques témoignages. Ce sont des outils qu'on va utiliser lors de la première commémoration
en avril 1995.
On a organisé la première exposition, je dirais, au Botanique, en avril 1996. Là, on avait vraiment tout ce qu'il fallait. On a exposé des photos qu'on avait prises là-bas. On en a acheté aussi auprès des agents de presse, Associated Press, mais aussi il y a un photographe de MSF, Roger Job, qui nous il m'a vendu quelques photos, il nous a donné les droits, donc je vous l'ai dit, sur la photo d'Ibuka.
C'est
donc,
ça.
Cette photo d'Ibuka, Roger Job, elle a été prise par Roger Job, quelque part à Guitarama, il nous a donné les droits.
D'accord.
Nous pouvons l'utiliser...
Comme on le fait toujours. 30 ans.
Voilà, c'est ça. Alors, l'histoire de la photo est intéressante. Je reviens sur l'histoire de la photo.
Oui, s'il vous plaît.
Alors, un soir, on s'est réunis justement pour préparer la commémoration, la première commémoration. On est, je crois que c'est la venue de la prévoyance, je crois. Donc on était réunis là, alors il s'agissait de chercher une image qui représenterait vraiment Ibuka.
Ibuka, oui.
Et alors, des idées, beaucoup de projets, et puis à la fin, il y avait une proposition qui était retenue, c'était une... Bon, Pierre Galland avait dit qu'il allait se charger de cette image-là. Alors, l'image qu'il nous a proposée ne cadrait pas vraiment avec l'événement, avec la commémoration, parce qu'il s'agissait d'une tête avec colombe et tout ça. On est au mois c'est la première année, donc on ne parlait pas de réconciliation à ce moment-là. Donc là, on a directement essayé de trouver autre chose. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur la photo.
Sur la photo de
Roger Job. La question, alors, comment Ibuka est arrivé au Rwanda? Alors donc, pendant justement nos voyages, alors j'ai rencontré celui qui sera le premier président d'Ibuka, là-bas. Voilà, on a parlé, on a, on a, je le dis, voilà, nous avons créé l'association. Il s'appelle Ibuka. Alors, il m'a dit, écoute, nous aussi, voilà, nous pensons créer une association des rescapés, mais voilà, il m'a présenté toute une série de noms. Alors, je lui ai dit, écoute, pourquoi ne prendriez-vous pas ce nom, le nom d'Ibuka ? Parce que de toute façon, notre projet est d'établir notre organisation Ibuka au Rwanda. Pourquoi n'adopteriez-vous pas le nom d'Ibuka ? Et alors, voilà, il a...
C'est parti comme ça.
Et alors après, Jean-Philippe et moi avions rencontré le ministre des Affaires sociales à l'époque, qui avait en charge les commémorations. Ils avaient des projets de commémoration. Ils ne savaient pas non plus comment ils allaient faire. Et alors, nous, tu leur avons suggéré le 7. Finalement, il était d'accord pour organiser les commémorations à partir du 7. Nous avons donné des arguments, il était tout à fait d'accord.
Alors revenons un peu sur le mot Ibuka. En fait, quand on dit mot Ibuka, c'est pas correct. Hein. Ibuka, c'est pas un substantif en Kinyarwanda. C'est le verbe kwibuka qui est conjugué à l'impératif du singulier. Mm-hmm. En fait. Et je pense que le message, si je me trompe, tu me le diras, Eugène. Mm-hmm. Je pense que comme tu disais, c'était un projet de survie. Mm-hmm. Et donc là, il s'agissait d'une obligation que vous donniez à l'époque. Souviens-toi donc. Ibuka, c'est souviens-toi. Et donc, c'est vraiment comme un engagement qu'on prenait, mais qui représentait une obligation éternelle, universelle.
Il s'agissait d'un devoir de chacun. C'était un devoir de chacun d'entre nous, mais de tout être humain, parce que je ne suis détenu un crime contre l'humanité. Il était défini comme ça, par rapport au génocide qui a été commis contre les Juifs. Mm-hmm. C'est un crime contre l'humanité. Notre devoir, le devoir de chacun d'entre nous, qu'il soit européen, asiatique, blanc, noir, congolais, rwandais ou que ce soit, notre devoir, c'est de ne jamais oublier ce qui venait de se passer.
D'accord. Et alors, les premières années, j'ai lu le livre de Michel. Il y avait une grande mobilisation, à la fois de Rwandais qui étaient ici, mais aussi de vos amis, des gens qui étaient ici, pardon, en Belgique. Je me suis laissé dire que la première commémoration a vraiment vu l'affluence des personnalités politiques, des personnalités qui ne s'entendaient même pas sur le plan politique, mais qui s'étaient réunis pour la circonstance. Parlez-nous, Jeanne, des premières années d'Ibuka. Comment se passaient les commémorations? Comment se passaient les activités que vous meniez ici? Mm-hmm. Je rappelle que vous avez été le premier président d'Ibuka.
J'ai été le premier président d'Ibuka, c'est exact. J'avoue, franchement, de l'inexpérience, de mon inexpérience, parce que bon, je ne suis pas le seul. Personne d'entre nous n'avait connu le monde associatif et personne n'avait porté un tel fardeau. Personne. Mais la première année, vraiment, nous étions, je dirais, vraiment supportés, soutenus. Il y avait une attente. Les gens auprès desquels on allait, vraiment, on était bien accueillis, on était bien reçus. Le message, en tout cas, était bien accueilli. Parce que ça venait de se passer. C'était terrible. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas vu. Tout le monde l'a vu. Et en plus de ça, il s'est passé malheureusement un événement terrible, consécutif, évidemment, au génocide des Tutsis. Tu as les 10 paracommandos belges, casque les bleus,
qui avaient été assassinés,
donc ce qui a augmenté la sensibilité de la population belge ici et des autorités belges. Donc nous étions vraiment, je dirais, soutenus. Nous avons été soutenus les premières années par la plupart d'associations, la plupart des hommes politiques. Nous avons, par exemple, la première commémoration, nous l'avons organisée aux Beaux-Arts. C'était un bel endroit. Il y avait beaucoup de monde, il y avait des ministres, il y avait des ministres de la communauté, de toutes les communautés présentes à Bruxelles, donc mm-hmm. flamandes, bruxelloises et francophones. Mm-hmm. Tout le monde était là. Je me souviens de Laurette Onkelings, je me souviens de Guy Verhofstadt, je me souviens de vraiment, il y avait beaucoup de personnalités politiques dont je ne connaissais pas au départ. Mais j'ai découvert plus tard que bon, c'était des hautes personnalités. Donc ça se passait super bien. On ne s'est pas limité à Bruxelles. Les commémorations, on les a fait aussi dans les provinces parce que beaucoup de membres de notre communauté vivaient dans les provinces. Donc, on a décidé, comme on le fait maintenant, d'organiser des commémorations dans différents lieux, dans différentes provinces. Donc, c'est ainsi que nous avons, je dirais, parlons des villes principales. Hein, donc, mmh. Il y a Liège. Non, pas des villes principales, mais des villes où habitaient beaucoup de Rwandais. Mmh. À Liège, à Namur, à Anvers aussi. et à Charleroi. L'activité principale que nous avons menée, c'est effectivement la commémoration avec ces trois étapes. Une autre activité, c'était l'exposition des photos que nous avions recueillies ici et là, mais essentiellement les photos qu'on a prises au Rwanda, les témoignages. Donc tout ça, ce sont des activités principales qu'on a faites. Alors, on a essayé au départ d'organiser, de rassembler, de réunir les rescapés. On organisait des réunions, des rencontres, ça s'est bien passé. Mais finalement, à la fin, on s'est heurté quand même à quelques difficultés qui ont fait que cette activité-là s'est un peu ralentie pour des raisons diverses. Disparité, disponibilité, voilà, tous ces petits soucis-là ont fait que bon, cette activité-là s'est un peu ralentie. Ouais.
Alors, on est maintenant à 30 ans depuis la fin du génocide des Tutsis. Maintenant, on vient de terminer la... Bientôt, hein, ça continue, mais on est presque à la fin de la commémoration. Quel regard portez-vous sur cet épisode-là qui vient de s'écouler de 30 ans? Peut-être avant de vous demander quel regard portez-vous sur l'avenir du Yuka. D'abord, regardons sur le passé, les 30 dernières années.
Vous connaissez le mot qu'on appelle, enfin, ou le concept de Ejo. Ejo, ça veut dire...
Demain.
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 Mais alors, je vous dirais que demain, Ejo, ce n'est pas demain. Dans le système de pensée européen, ça fait 30 ans. Mais pour nous, c'est aujourd'hui. Parce que Ejo, Hazaza, n'est pas encore là. Et hier, Ejo Hashize
est toujours là.
Est toujours là. Donc, il est toujours là, mais il n'est plus là. Il est toujours là, mais il n'est plus là. Donc, Ejo Hashize n'est plus là, mais il est toujours là. Mais Ejo Hazaza n'est pas encore là. Alors, pour moi, le génocide, il ne s'est pas passé 30 ans. C'est aujourd'hui. Donc, moi, je réfléchis par rapport à aujourd'hui. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? On parle d'un million de morts. C'était un million d'individus, de personnes qui avaient une identité, qui avaient des noms, qui avaient des projets, qui avaient des enfants. Ce sont des enfants qui avaient un avenir. Tous ces êtres-là ont été détruits. Mais il ne s'agit pas seulement d'un million. Il s'agit de plus. Ajoutons à ce 1 million les Tutsis qui ont été assassinés, tués durant toute la période 60, 59 à maintenant. Combien sont-ils? Donc, il y a eu toute une population carrément qui a été détruite, complètement détruite. Aujourd'hui, on se projette effectivement vers l'avenir, vers Ejo, mais sans cette partie-là. Donc, nous avons été mutilés. Les Tutsis ont été mutilés, je dirais, de 90% de leurs membres. Il leur reste la tête, peut-être le pied, mais j'espère la tête. J'espère la tête. Et alors, qu'est-ce qui se passe demain? Comment sera la commémoration demain? Comment je vois l'avenir? Je dirais que, bon, j'ai espoir, n'est-ce pas? J'ai espoir. Parce que, comme vous dites ici, ça fait 30 ans que le génocide a eu lieu. 30 ans après, nous sommes là. Nous avons des enfants. Nous avons des petits-enfants. Et donc, ces petits-enfants ont des projets. Ils sont conscients de ce qui s'est passé. Nous sommes conscients de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous avons un pays qui ne discrimine personne, qui a un projet qui inclut tout le monde, toutes les communautés. Alors que pendant les 30 ans, les Tutsis ont été discriminés. Et même au-delà de Tutsis, il y a une discrimination interrégionale. Donc, ceci n'existe plus au Rwanda.
Les 30 ans avant le génocide des Tutsis.
Les 30 ans avant le génocide des Tutsis. Donc, nous avons des autorités qui sont conscientes du problème et qui travaillent justement pour que ceci n'advienne plus. Nous sommes très conscients, les jeunes sont conscientisés, il n'y a plus de discours de haine. Parce que je me souviens, avant 94, toi tu le sais, évidemment, mm-hmm. Tu sais que périodiquement, épisodiquement, il y avait des massacres de Tutsis. Donc, il suffisait d'un petit événement. Voilà, les Tutsis, Tungurimaru Rwanza, c'était ça. Aujourd'hui,
c'est
franchement,
c'est un
bouc émissaire. 30 ans après, il n'y en a pas eu. Franchement, il n'y en a pas eu. Même si aujourd'hui, au Congo, le génocide ne s'est pas arrêté. Le génocide a continué. Il a passé les frontières pour aller s'exécuter ou se perpétrer au Congo par les mêmes Interahamwe qui ont commis le génocide au Rwanda.
Et contre les Tutsis congolais.
C'est ce qui se passe. C'est ça qui est inquiétant.
Est-ce qu'il y a un rôle pour Ivoka dans cette situation où Ivoka, je veux dire maintenant, Ivoka, la grande famille d'Ivoka, hein, je vous parlais des choses qui se passent au-delà des frontières du Rwanda, mm-hmm. Mais on a commencé en Belgique, on est bien en dehors des Français du Rwanda. Est-ce qu'on a un rôle pour ces situations dans des pays limitrophes?
Je pense que c'est notre devoir de dénoncer, de combattre ces politiques, ces campagnes génocidaires qui sont commises, perpétrées là-bas, sur nos frontières. Là. Parce que, regardez, Yad Vashem, qui est une organisation juive qui est basée à Jérusalem. En fait, il est basé à Jérusalem, mais le génocide n'a pas été commis
à Jérusalem.
Le génocide a été commis en Europe par les Européens. Et donc, leur travail, évidemment, s'étend dans toute l'Europe, mais aussi en Amérique, pour chasser, poursuivre tous ces dignitaires nazis qui sont cachés partout ici,
dans le monde, non, je crois.
Dans le monde, donc ça, c'est leur travail. Donc nous devrions nous faire la même chose. J'ai oublié de dire que parmi les objectifs d'Ibuka, sur le petit papier que j'ai griffonné, il y avait aussi le devoir de justice. Il fallait absolument essayer de retrouver les coupables, les génocidaires qui sont cachés en Belgique et de le traduire en justice. Et c'est ce que la Belgique a fait.
Avec les cours d'assises.
Donc la Belgique a jugé quand même quelques dizaines de génocidaires.
Nous voici donc à la fin du premier épisode de notre série Ibuka 30. Dans cet épisode, nous sommes revenus sur la création de l'association Ibuka Mémoire et Justice. Ses débuts, bien sûr, le choix de son nom, celui de la date des commémorations, leurs objectifs ainsi que le rôle de l'association quant à la sensibilisation sur le crime de génocide au-delà des frontières du Rwanda. Il ne me reste qu'à remercier mon invité Eugène Mutawazi, membre fondateur et premier président d'Ibuka ASBL. Au revoir et je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode de notre série de podcasts Ibuka 30.